La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Et bonjour à tous pour cette midinale du 14 mars. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons à la technique notre châssis poulet national.
Et oui, toujours là.
Asgard, Steph,
ouais.
Kevin et Pedro. Alors, aujourd'hui, nous allons démarrer par une petite revue de presse tranquillou bilou. Steph va nous lire, va revenir sur la grève de la faim de Libreflow. Après, Kevin va nous parler de eau. Je laisserai dire ce que c'est. Seb nous fera un petit retour sur la guerre en Ukraine. Quant à ma part, je parlerai d'un retour sur les violences policières en rêve parti. Et Asgard nous fera un petit retour sur le procès du racisme dans la police. Chose surprenante.
Il les condamne pas d'avance.
Ouais, c'est vrai, c'est des gens bien.
Bon, allez, c'est moi.
Ouais.
Je vais essayer de commencer. Faire une phrase. Depuis le 27 février, Libreflow, qui est la dernière personne incarcérée à l'isolement dans l'affaire des inculpés du 8 décembre, a entamé une grève de la faim. Et sur le blog des comités de soutien aux inculpés du 8-12, ils viennent de nous donner des nouvelles. Donc je vais lire ce qui est arrivé. Des nouvelles de la grève de la faim de Libreflow. Libreflow a démarré une grève de la faim dimanche 27 février 2022. On peut lire les revendications et ses explications sur le blog, déjà. Et donc les nouvelles qui datent du 9 mars. Alors, depuis, il ne consomme que de l'eau et du thé. Il a cantiné des cubors et des jus de fruits pour compléter et avoir des apports nutritionnels. Il refuse systématiquement les plateaux repas qui lui sont apportés chaque jour. Nous avons pu lui transmettre des conseils pour tenir. Il a eu, dès le premier jour, la visite du directeur de la prison. Depuis, il a des rendez-vous réguliers avec un médecin qui prend sa tension, vérifie son poids, etc. Son rythme cardiaque a diminué de moitié. Il a donc décidé d'arrêter de faire du sport, c'est-à-dire marcher sur un tapis. Depuis le 9 mars, c'est de sortir en promenade, entre guillemets. Une cage de 20 mètres carrés, sur les toits de la tôle, à cause du froid. Son moral va bien, malgré les conditions de l'isolement qui continuent de l'affecter. Il souhaite nous rassurer sur son état de santé actuel et son moral. Lors du rassemblement de soutien du mercredi 9 mars à Toulouse, Libreflow nous a laissé un message que nous retranscrivons ici. Salut à tous. Aujourd'hui, le 9 mars 2022 à 18h, j'entame tout juste mon 11e jour de grève de la faim. C'est en tant que militant politique, en tant qu'anarchiste, et surtout en tant qu'humain, que j'ai rejoint mes frères, mes sœurs au Rojava en 2017, dans leur lutte contre Daesh, et pour leur projet émancipateur, œuvrant pour une réelle démocratie, la libération des femmes et la protection de l'écologie. C'est cette identité politique et cette expérience qu'on cherche à criminaliser depuis mon retour, en créant de toutes pièces une figure de leader charismatique, fanatisé, semblable au cauchemardesque terroriste daéchien, au mépris du joyeux déconneur que je suis. Certes, toutes ces écoutes, ces filatures, ces surveillances ont révélé mes infractions à la loi, qui n'en a pas. Je les assume, et elles n'ont rien à voir avec du terrorisme. Cette grève de la faim est devenue mon seul moyen de me faire entendre. Je ne demande même pas que cette mascarade soit classée sans suite, mais uniquement qu'après 15 mois d'isolement, je puisse être mis en liberté comme mes co-inculpés. Que s'arrête enfin cette torture. Je vous remercie du fond du cœur de votre soutien. Salutations et respect.
Bah merci, Steph. Donc, tu rappelles un peu sa situation ou pas du
tout? C'est... Donc là, il est... Donc le 9 mars, il était Oh, je suis nulle en calcul, mais le 9 mars, il était à son 11e jour de grève de la faim, donc on est à 16 jours, c'est ça ?
Ouais.
Il est toujours à l'isolement, donc dans une prison, à la prison de Bois d'Arcy. Jusque-là, il n'avait pas d'accès à des soins médicaux. Jusque-là, on n'écoutait absolument pas ce qu'il avait à dire. Jusque-là, le procureur menait une instruction uniquement à charge. Et donc, il est inculpé, comme 7 autres personnes, d'associations malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Donc, depuis le début, depuis le 8 décembre 2020, donc la date de son emprisonnement, il est maintenu à l'isolement. C'est lui qui a le... Ils étaient 5 à avoir été emprisonnés. Les 4 autres ont été relâchés. Le dernier, c'était en novembre. Donc après 11 mois de prison pour S, le dernier est sorti. Si lui y est toujours, c'est bien que depuis le départ, on a créé une figure de leader. Et cette figure de leader, elle repose, comme il le dit, hein, et comme il le dit depuis le départ, sur son engagement au Rojava en 2017, où il est allé... lutter contre Daesh, notamment à Raqqa, où, il le rappelle aussi, avaient été préparés les attentats de novembre 2015 en France. Donc en gros, on fait de lui un terroriste pour avoir lutté contre les seuls qui ont commis des attaques terroristes en France, c'est-à-dire Daesh, quoi. Voilà. L'instruction est pas... Je sais même plus. L'instruction est terminée ? Non, pas encore ?
Non, l'instruction est même pas encore terminée, je pense.
Ouais.
Il n'y a pas de procès ou de date de procès qui est annoncée.
Et là, en fait, c'est à peu près... Enfin, c'est super dur et c'est hyper angoissant, cette histoire de grève de la faim. Quand ça dit son rythme cardiaque a baissé de moi... a été divisé par deux. Enfin, on voit un peu ce que ça peut provoquer comme dommage physique. Mais c'est aussi un moyen de reprendre sa vie en main, quoi. C'est même le seul qui lui reste.
Oui, et puis ces accusations-là, vu le contexte géopolitique actuel, prennent une tournure tout à fait scandaleuse, quoi. Enfin, on a toute la presse, même la presse locale, le Télégramme, qui encense, pour ainsi dire, tous les gens qui décident de prendre les armes et de partir en Ukraine. Et lui qui a fait la même chose, on l'a foutu en prison et on le laisse y rester, quoi.
La différence, c'est que, voilà, les gens qui partent défendre l'Ukraine libérale, c'est évidemment pas la même lecture que les gens qui partent défendre le projet communaliste du Rojava, quoi. Et à noter aussi que dans les portraits qu'on peut faire, et dans le Télégramme et sur Radio France, de gens qui partent en ce moment en Ukraine, c'est souvent des anciens militaires. Pour le Rojava... pour les combattants internationalistes qui sont allés au Rojava, c'est à peu près la... Enfin, les profils étaient aussi... Il y avait aussi des profils d'anciens militaires. Eux ne sont pas emmerdés à leur retour en France. C'est les militants anarchistes qui sont emmerdés quand ils rentrent en France.
C'est le militant anarchiste, parce que finalement, il y a que... On entend parler malheureusement de lui et...
Ouais, alors lui, c'est en ce moment, mais il y a eu... On avait fait une interview qu'on peut toujours retrouver sur le site de Piquet, de quelqu'un qui a beaucoup témoigné sur le Rojava et sur ce que c'est qu'être un combattant internationaliste, qui s'appelle André Hébert. Et lui, il racontait comment lui aussi avait été emmerdé à son retour, comment il avait été emmerdé quand il avait voulu y repartir, comment il avait été défendu par un avocat, donc par Raphaël Kempf, qui est aussi... Un des avocats dans l'affaire des inculpés du 8 décembre, c'est assez systématique dans toute l'Europe que les militants anarchistes ou les soient emmerdés, quoi. Que ce soit en France, en Italie, en Allemagne.
Oui, puis lui, il est emmerdé parce qu'il a été combattant, mais toute une construction du dossier, c'était justement d'emmerder que des militants de gauche. Toute la construction de cette affaire-là, et puis ce qui était annoncé, c'était un soi-disant coup de filet
antiterroriste
dans le milieu d'ultra-gauche, etc. Comme
entre des gens qui ne se connaissent pas entre eux. Hein. Là, sur les sept co-inculpés, il y en a certains qui se connaissent pas, quoi, qui sont pas des camarades.
Oui, enfin, mais tout l'enjeu de la construction policière, c'était de faire croire qu'il y avait une cellule éventuellement qui était prête à commettre des attentats, à s'en prendre aux forces de l'ordre et physiquement aux forces de l'ordre. Enfin, c'était toute une construction là-dessus. Enfin, dans les faits, les gens se connaissent plus ou moins. Enfin, ouais. Et ça repose pas sur grand-chose, quoi. Mais au contraire, toute cette construction-là, elle visait à inventer des cellules qui seraient prêtes à passer à l'action violente et meurtrière.
C'est assez angoissant aussi parce que dans les dernières grosses affaires d'antiterrorisme en France, on pense évidemment à Tarnac, quoi, où au maximum ils avaient fait. Coupa, il avait fait 7 mois de préventive, c'est déjà évidemment trop, enfin, c'est pas la question. Mais pas sur ce régime d'emprisonnement-là. Et derrière, pour se sortir de cette histoire-là, ça a été 10 ans de procédure pour eux. Donc là, ils s'acharnent, ça fait 15 mois, ils le maintiennent à l'isolement. Le procureur a déjà fait savoir qu'il ne se passerait rien avant les élections présidentielles.
Et oui.
Oui, parce que ça devient politique aussi. Donc.
Et puis on verra tout à l'heure que les différences de traitement qu'il y a là vis-à-vis des combattants, suivant qu'ils vont en Ukraine ou défendre, comme tu disais, des blancs cathos ou Rojava, on retrouve la même dans le traitement des différents réfugiés en ce moment en France. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure sur le retour de la guerre, la guerre en Ukraine.
De toute façon, on reviendra sur le sujet de Libreflow, j'imagine, assez régulièrement. Ouais. Ben, merci, Steph. Et on enchaînait avec Kevin qui va nous parler de O.
Oui, alors entre-temps, je me suis renseigné, on peut le nommer, puisqu'il est nommé dans l'appel à soutien. Donc O, c'est Oussama. Oussama, on l'avait rencontré sur la grève des. En tout cas à Brest, sur la grève des bibliothécaires. Donc à ce moment-là, on était encore en lutte pour un accès gratuit et surtout sans passe sanitaire. Dans les médiathèques de Brest. Et Oussama, lui, il était membre d'un mouvement de Nantais, essentiellement des bistrotiers, restaurateurs, et des gens d'un peu du monde de la fête, de la nuit, qui luttaient, qui étaient aussi en lutte de leur côté contre l'application du pass sanitaire. Donc nous, on l'avait rencontré en fin d'année dernière. De mémoire, c'était sur Bellevue.
Ouais.
Donc un mercredi, il nous avait bien plu. Il était arrivé. Enfin, on avait senti que c'était un gars qui avait plein de convictions, qui avait plein d'idées aussi. Il était venu nous présenter le journal qu'ils éditaient, qui était hyper intéressant. Du coup, on a gardé un petit peu. Enfin, on a gardé contact vraiment de loin. Et là, on a eu de ces nouvelles. Donc, on a eu de ces nouvelles de manière directe et de manière indirecte, parce qu'en ce moment, donc sur les réseaux, notamment le site Facebook de Canal. Donc, si vous le cherchez, vaut mieux taper Canal Nantes Facebook. Il y a un appel à soutien par rapport à Oussama que je vais relire parce que on l'a pas eu en direct. Donc, le plus simple, c'est d'avoir aussi. Un texte qui est clair sur sa situation actuelle. Juste pour donner le cadre, c'est un appel à soutien parce qu'Oussama va passer demain en procès à Nantes à 13h30. Donc demain mardi 15. Il y a une caisse de soutien pour les frais de justice qui vont être assez conséquents. La caisse de soutien, je vais pas donner l'adresse parce que c'est un petit peu compliqué, mais la caisse est bien sur le site de Canal et on pourra la remettre sur Cabal ou sur Piquet.
Ouais, je pense qu'on la mettra dans la Midinale.
Donc, voilà. Donc je lis l'appel à soutien. Oussama a été arrêté mardi 21 septembre dernier par un déploiement de 30 policiers autour du tribunal de Nantes où il était poursuivi pour violence à agent, requalifié en simple rébellion devant les procès-verbaux contradictoires des policiers l'accusant. Placé 48 heures en garde à vue en pleine grève des serveurs qu'il avait initiés, on découvre à sa sortie des geôles qu'il est accusé d'outrage à symbole national, une simple infraction qui lui vaudra un contrôle judiciaire de 6 mois avec interdiction de participer à tout rassemblement à Nantes. Et une convocation au tribunal correctionnel ce mardi 15 mars. Entre-temps, harcelé par la police sur son lieu de travail, il a perdu son emploi, se fait régulièrement menacer par l'extrême droite et subit la pression des services de renseignement. Le dossier monté de toutes pièces par la police secrète présente des procès-verbaux anonymes où on l'accuse d'avoir voulu perturber les manifestations anti-passe de l'été dernier, un comble pour quiconque y a participé et a pu observer son engagement. Au cœur de la manœuvre, il y a des agents de la préfecture de police qui, en lien avec Tout va bien 44, ont tenté de piloter le mouvement pour d'une part favoriser la réélection d'Emmanuel Macron en faisant de toute contestation du pass sanitaire une expression d'un complotisme déluré et d'autre part en limitant le champ de la critique collective au réflexe de la peur et du rejet de la science tel que proposé par Louis Fouché, Florian Philippot ou encore Philippe Devilliers. Ainsi, dans les PV anonymes des policiers, on découvre qu'Oussama est accusé d'avoir voulu perturber les manifestations de Tout va bien 44 quand, avec Canal, il a déjoué avec succès les projets d'invasion du CHU les 28 août et 4 septembre dernier, organisés par ce collectif dirigé en sous-main par la préfecture et l'extrême droite. Qui sont ces policiers qui montent de faux dossiers et ne veulent pas être connus des juges? Quels sont leurs liens avec l'extrême droite? Dans la mesure où de tels agissements ont eu lieu dans d'autres villes de France, en quoi avons-nous affaire à un plan orchestré par la place Beauvau et son ministre issu de l'Action française, organisation royaliste impliquée dans les violences du 31 juillet à Nantes? Toutes ces questions ne seront pas résolues à l'audience de mardi prochain. Toutefois, un rassemblement est appelé dès 13h30 devant le tribunal de grande instance ce 15 mars. Soyons nombreuses, mardi 15 mars, pour apporter notre soutien à notre camarade, et montrer aux ennemis de la liberté que leurs manœuvres d'isolement ne marcheront pas. Pour assumer les frais occasionnés par cette procédure et financer une enquête de fond sur les liens entre les réseaux d'extrême droite et la police secrète, une caisse de soutien est ouverte en ligne. Et voilà.
Merci.
Bon, on mettra les liens sur l'article.
On mettra tous les liens sur l'article de ce 7 Midinal. Ça sera bien plus simple. Et alors là, question qui tue, est-ce qu'on continue notre revue de presse? Parce qu'on avait aussi des gens de Uber qui devaient venir à 13h, et comme je vois qu'il est 12h55...
Eh ben, on peut faire un des trucs qui était prévu, puis on va aller voir s'ils sont arrivés.
Ouais, ça marche. Alors, tu vas nous parler de la guerre en Ukraine un peu, Seb?
Ouais, enfin, pas la guerre quand même. Comme vous pouvez l'entendre sur les autres médias, je vais pas vous parler des différentes bombes qui sont tombées cette nuit ou pas sur telle ou telle ville. C'est pas ça qui m'intéresse, même si évidemment c'est toujours grave et faut pas l'oublier. Non, j'étais tombé en faisant une petite recherche cette nuit de ce que j'allais raconter aujourd'hui sur une vidéo de, alors c'est de Blast il me semble, qui nous explique, qui revient un peu sur quelles conséquences sur nos vies. Alors, à part les conséquences directes déjà sur les habitants ukrainiens qui, eux, meurent des bombes, va y avoir aussi d'autres conséquences, bien sûr, la planète capitaliste, puisque avec toutes les restrictions économiques que les Occidentaux et l'OTAN ont pu mettre en place, il va y en avoir d'autres. Et dans cette vidéo de Blast, je vous mettrai le lien, ils reviennent sur les conséquences qui montrent que notre forte dépendance, en tout cas en Europe, à toute l'énergie fossile qui vient de Russie. Et ils font aussi un lien, évidemment, avec la crise alimentaire qui semble nous pendre au nez, et pas que en Europe. Et je pense même que ce sera pas forcément en Europe où on sera le plus touché, nous, un peu au portefeuille, au magasin. Mais je pense qu'il y a des pays, ils parlent beaucoup, en ce moment on en parlait beaucoup des pays d'Afrique du Nord, enfin d'Afrique en général, où je pense qu'ils vont avoir des gros gros soucis pour importer des céréales. Donc c'était parti un peu sur cette vidéo. Et la crise alimentaire, ça nous parle. Et j'ai fait le lien parce que j'ai vu en me baladant sur Face de cul dans la semaine que bah, t'as des lobbies qui sont en train de surfer sur la vague de la guerre. C'est vraiment dégueulasse. Comme j'ai pu voir par exemple une pub de Super U qui vantait, venez, comment ils disaient ça, pas supporter, mais aider nos agriculteurs, nos éleveurs. Nous, on vend du porc français. Venez acheter notre porc français dans nos locaux et tout. Enfin, tu vois, c'est
nourri avec du soja brésilien.
Ouais. Non, le fameux, c'est pas du soja, c'est du tournesol ukrainien d'ailleurs. Ils en font une espèce de farine qui nourrit tous nos élevages en France. Donc voilà, t'as Super U qui surfe là-dessus. Et alors un truc qui est un peu plus dégueulasse, c'est le lobby de l'agro-industrie en général, hein, qui instrumentalise la guerre en Ukraine pour augmenter ses profits, entre autres. Donc là, il y a deux articles. Il y en a un sur la relève et la peste. Pareil, on vous mettra un lien. Et un sur reporter.net, ils sont un peu liés. Le truc, c'est de dénoncer donc, le lobbying hein, de l'agriculture intensive. Par exemple, on va en parler rapidement, mais il y a quand même des choses qu'on... Il y avait un volet agricole qui était porté par la Commission européenne, qui était pour tenter de réduire la portée... Enfin, pardon, qui était sur... son nom, c'était de la ferme à la fourchette. Le but étant d'aller vers une agriculture plus raisonnée, mieux répartie, parce que pour régler le problème d'alimentation dans le monde, il ne suffit pas de produire tout au même endroit. Hein. On voit bien ce que ça implique quand tu as un seul pays qui exporte la majorité des céréales et qui d'un seul coup ne peut plus. C'est bien de répartir au mieux la production dans le monde. Et dans le cadre de ce volet là de la ferme à la fourchette, il y avait par exemple une feuille de route qui prévoyait entre autres une réduction de 20% de l'utilisation d'engrais, de 50% des pesticides, que 25% des surfaces agricoles cultivées passent en bio et qu'on laisse 4% des terres en jachère hein, pour favoriser la biodiversité, etc., etc. Qu'est-ce qu'a fait la FNSEA ? Qui c'est les cons derrière ça ? C'est la FNSEA, bien sûr.
Tu peux pas les traiter de cons, quand même.
Alors, le 28 février, la FNSEA a rien mieux de trouver qu'à appeler à l'abandon de cette stratégie, la qualifiant de décroissante, et défend une libération de la production. Voilà. Pour soi-disant nourrir les peuples qui auront faim. Donc pour eux, c'est on réglera le problème de l'exportation ukrainienne en produisant encore plus sur, par exemple, la FNSEA, donc c'est sur les terres françaises. Et donc pour ça, déjà, on va commencer par réexploiter les 4% de jachère. Hein, on va, donc du coup, évidemment.
Ça, c'est les gens de la FNSEA, parce qu'après, t'as quand même d'autres syndicats agricoles qui sont plutôt contre ça.
Quoi. Ah, oui. Mais là, on parle bien des lobbies hein, qui sont en train de surfer sur tout ça, quoi. Donc voilà, c'est deux articles qui se valent hein, entre La Relève et la Peste et Reporter. Je pense que c'est pas la peine d'en parler beaucoup plus. Je vous invite à aller lire ces articles. On vous mettra les liens. Mais en tout cas, voilà, à part les bombes qui tombent sur les Ukrainiens les prix qui sont en train de monter, flamber dans tous les sens, le monde d'après, déjà le Covid, c'était pas celui qu'on prévoyait. Le monde d'après la guerre, je crois qu'il va être encore plus dégueulasse. Voilà. Que dire de plus là-dessus ? Bon, il y a une lettre hein, qui a été envoyée de la part de 90 ONG quand même. Contre ce truc-là, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que pour faire des pesticides ou des choses comme ça, on utilise beaucoup de gaz et de pétrole qui viennent de Russie pour fabriquer ces trucs-là. Donc ce que nous propose la FNSEA, je ne crois pas que ça aille dans le sens de la transition écologique, de produire mieux réparti.
C'est pas l'intérêt de la FNSEA.
Non, on voit bien le monde qu'ils nous proposent pour demain, pour nos enfants, pour nous aussi, avant notre retraite. Voilà. Et donc en rapport aussi toujours avec la guerre, parce que tout à l'heure vous parliez des différences de traitement, hein, des combattants, s'ils vont défendre plutôt le Rojava ou plutôt l'Ukraine. Il y a un article sur toujours sur Reporter qui se nomme « Discrimination. À Calais, les migrants passent après les réfugiés ukrainiens ». Donc les réfugiés ukrainiens qui se pointent à Calais sont accueillis par la mairie, on leur offre un logement direct, etc., etc. Et pendant ce temps-là, les autres continuent de se les cailler dans leur tente au milieu d'un champ tout boueux. Et dans ce dans cet article de reporter, donc il y a c'est pas deux Ukrainiens, c'est un couple d'un Polonais et d'une Ukrainienne, de Natalia et Anatoli. Anatoli est un Polonais qui travaille en Angleterre. Sa femme ou son amie Natalia, elle, était en Ukraine, a fui l'Ukraine et l'a rejoint ici à Calais. Il témoigne et il y a quand même une phrase de la part de Natalia qui est sur la plage en train de regarder les ferries qui passent entre la France et l'Angleterre. Qui s'émeut, qui dit « Nous avons fait un tour en ville hier et nous avons vu des gens dans des petites tentes sous les ponts. Comment peuvent-ils vivre ainsi? Il fait trop froid. » Donc voilà, je pense que tout est dit dans cette phrase. Et voilà, all refugees welcome, bien sûr. Et ce serait bien qu'on traite tous les réfugiés de guerre, que ce soit d'une guerre militaire, d'une guerre économique, d'une guerre climatique, de la même façon.
Ouais, et voilà. Puisqu'on parle des différences de traitement, je renvoie vers un article de Mediapart qui parle d'une plainte qui a été déposée par une quinzaine de migrants qui étaient au centre de rétention de Nice. Alors je vous lis juste... le titre de l'article, à Nice, à l'heure de la prière, la police inflige du porno aux oreilles des sans-papiers en rétention. Du coup, ces migrants portent plainte parce que pendant l'heure de la prière, leurs geôliers se trouvaient très amusants de diffuser des bandes-sons porno par les haut-parleurs pour les humilier.
C'est de la torture mentale, quoi.
C'est de l'humiliation.
Mais bien sûr, ils ne le feraient pas pendant une prière catholique. Ouais, wow. Bah si, on y est encore là. C'est...
Oui, je suis d'accord avec toi. On en est là, c'est comme ça. Merci en tout cas Seb, et puis on mettra tous les liens dans l'article aussi.
Oui, je mettrai plus
de liens. Et puis sur cette histoire d'agriculture, tu vois, j'avais d'autres aspects, mais bon, on est un peu...
On a un peu pris de cours, on a plein d'invités, on développera peut-être un peu plus...
On développera une autre midinale, parce que ça va être un vaste sujet, l'agriculture.
Oui.
Donc on fait une petite interruption dans notre revue de presse parce que aujourd'hui nous recevons un ancien livreur de Uber, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Voilà, donc vas-y, tiens, hésite pas, tiens, mets-toi le...
Je mets le casque,
ouais, vous voulez. Ce sera plus facile pour toi.
Ça marche.
Hop, et je te laisse te présenter, ça va être beaucoup plus simple.
Oui.
Puisque la seule ligne que j'ai, c'est Nico Uber. Voilà.
Ben ouais, alors moi c'est Pierre, m'appelle Pierre Marchadour, j'ai 27 ans. Et donc, j'ai été coursier depuis 3 ans sur les plateformes Uber, Deliveroo. Et donc, aujourd'hui, avec des collègues, on essaie de. Bah, du coup, on monte une coopérative de livreurs à vélo. Et donc, voilà, on est vraiment au début. Ça a démarré en novembre. Et donc, l'idée, bah, voilà, on est une association pour le moment. Et notre objectif à long terme, c'est de former une coopérative pour faire donc une alternative locale de livraison. De repas et faire de la cyclo-logistique de manière plus large sur Brest, quoi, du coup.
D'accord.
En vélo.
Tu pourrais nous donner le nom de la sauce ?
Ouais, c'est les coursiers brestois.
Yes.
Voilà.
Bon, j'imagine qu'il y a un site internet et tout ça. On mettra tout aussi sur le site de la radio. Et vous êtes un peu... je sais qu'il y avait pas mal de collectifs qui s'étaient montés du côté de Nantes et Grenoble aussi, sur les indépendants... comment ils s'appelaient déjà ? C'était les livreurs indépendants, ou j'ai oublié leur nom.
Ouais, les collectifs de livreurs vélo, CLAP, tout ça.
Je crois que c'est ça, ouais.
Ouais.
C'est un peu dans la même veine, vous êtes en contact avec ces gens-là ?
Oui. D'accord. Ouais, alors en fait, du coup, ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a rejoint une fédération de coursiers qui s'appelle COPCycle. Et donc ça nous permet d'être en relation avec beaucoup de coursiers de France. C'est une fédération européenne, donc on peut être en contact avec aussi des gens d'autres pays, et ça c'est vraiment sympa. Et donc après, on est tous dans ce mouvement aussi de collectifs livreurs à vélo qui connaissent bien COPCycle, donc on s'échange beaucoup. On échange beaucoup d'informations et d'expériences entre livreurs.
Ok, donc en gros, là, c'est vous libérer des plateformes, si j'ai bien compris, tout ça.
Ouais.
En voilà. Plus, ça intervient aussi, enfin, je sais pas, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, là, que le Parlement européen voulait une fois pour toutes statuer sur le statut des livreurs Uber, ouais. Là, en obligeant les plateformes à les salarier. De ce que j'ai compris, les libéraux européens ont un peu râlé.
Ouais, il y a des livreaux qui est passé il n'y a pas longtemps, en justice. Là.
Ouais.
Alors, eux. Bah, le truc, c'est qu'en France, du coup, ça met beaucoup de temps, quoi, avant que ce soit acté et tout ça. Là, c'est pour des livreurs qui étaient en contrat. Parce qu'on a un contrat avec des livreaux, un contrat alors qu'on est indépendant. Bon, pour ceux qui travaillent donc de 2015 à 2017, ou 2010, ouais, c'est ça, jusqu'à 2017, voilà, ça commence tout juste, je pense, pour des livreaux, pour les plateformes, à être chaud, quoi.
J'avais cru comprendre que de toute façon ils étaient plus ou moins. Enfin, moi j'avais suivi ça de loin un peu à une époque. Ils avaient quand même prouvé qu'il y avait une aliénation finalement. On te considère comme indépendant. Hein, c'est notre président actuel. De toute façon, lui il aime bien ça, les indépendants. Mais en gros, comme c'est prouvé que si jamais tu répondais pas à la plateforme en temps et en heure ou que tu refusais des livraisons, tu te faisais désindexer.
Ouais.
Si j'avais bien compris, c'était ça l'histoire. Donc de toute manière, t'étais aliéné à Deliveroo ou à Uber. Donc je crois qu'il surfait un peu sur cet aspect-là juridique pour justement dire à partir du moment où tu étais aliéné aux plateformes, tu devais être employé de cette plateforme. Donc si j'ai bien compris justement ce que tu disais, les libéraux ils sont un peu bottés en touche, c'est toujours au Parlement, parce qu'il y a quand même du lobbying derrière tout ça. Hein.
Oui, énorme, ouais. Ouais.
Le procès, il est en cours là en fait.
Il est encore en cours, ouais.
Il se tient entre le 8 et le 16, c'est à Paris, c'est devant la chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Et c'est en fait sur ça vient d'enquête de l'inspection du travail, si j'ai bien compris, qui remonte quasiment à la création des plateformes, donc oui. Uber Eats et Deliveroo, donc qui se font concurrence, toutes les autres ayant à peu près fermé et puis eux ayant pris le monopole. Et tout l'enjeu de ce procès-là, c'est une lutte qui est entamée depuis du coup plus de 5 ans.
Bah ouais, ça fait longtemps. Quoi.
C'est la reconnaissance ou non du travail dissimulé.
Mmh.
Et donc là, ce qui va être jugé, c'est en effet, comme tu disais, des faits qui remontent à la période 2015-2017.
Mmh.
Et donc qui ont été transmis par l'inspection du travail à la chambre correctionnelle. Et là, l'enjeu, en fait, c'est que ça passe au pénal. Mmh. Et c'est ça qui change. Jusqu'à présent, on n'avait que des procès qui se jouaient devant les prud'hommes.
Oui.
Et une grande partie de ces procès-là avait été gagné du coup au prud'homme. Bon, il y a eu une décision apparemment de la Cour de cassation, donc qui remonte à avril 2020 et qui justement avait permis à Deliveroo de gagner son procès.
Ouais.
Et du coup, l'enjeu là maintenant, c'est d'essayer de continuer cette lutte-là, d'après ce que j'ai pu lire. Pour que les accusations de travail dissimulé soient reconnues, et cette fois d'une manière plus globale, en passant par la Cour de cassation. Il y a une très bonne série de reportages qui est faite par le journal Les Jours, et du coup c'est en trois parties, où du coup ils essayent de suivre ce procès-là, donc qui n'est pas encore terminé, donc je pense qu'il y en aura d'autres, et où ils essayent de mettre en lumière cette question-là de la reconnaissance du travail dissimulé, de la manière dont ça s'organise à travers ces plateformes, pour essayer d'établir qu'il y a toute une logique en fait qui a été mise en place par ces plateformes-là pour effacer totalement les liens de subordination qu'il peut y avoir entre la plateforme et les livreurs qui sont sous des statuts, qui sont soi-disant indépendants, mais qui en fait sont excessivement liés à ces plateformes-là. Il y a un avocat apparemment qui... je suis trop long.
Non, c'est bien.
Il y a un avocat qui s'appelle Kevin Mention, apparemment, qui a porté énormément de ces...
Qui est très actif.
Qui est très actif sur Paris et qui a porté plus d'une centaine apparemment de ces cas au Prud'homme. Ouais. Et il incite notamment les livreurs, parce qu'il y a des instructions qui ont été mises en place par la plateforme après 2017 pour demander justement aux collaborateurs de communiquer au maximum par oral, parce qu'ils avaient eu accès à des notes de la plateforme qui démontraient que c'était du travail dissimulé. Et il leur demande, par exemple, de ne pas utiliser le mot « travail » ou « rémunération ».
Ah oui, 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 oui.
Et du coup, cet avocat-là incite le plus possible les livreurs à enregistrer et avoir des échanges avec les membres de la plateforme pour que ça conserve des traces. Et là, il y en avait un petit extrait dans Les Jours d'une conversation qui est assez drôle. Mmh. Alors, je vais essayer de la retrouver, de vous la lire. Il s'agit de Moussa, donc un livreur qui se retrouve à attendre parce que la personne ne vient pas prendre sa commande. Et du coup, Moussa contacte la plateforme au téléphone. Et donc, le chat des livreaux lui dit « S'il vous plaît, je vais avoir besoin de quelques instants pour tenter de joindre le client par d'autres moyens. » Moussa répond « Pourrais-je avoir un décompte plus précis du temps ? Et combien serais-je payé en fonction du temps d'attente ? Car pour 38,88€, ma mission est finie. » Deliveroo répond « Le client est injoignable. S'il vous plaît, il faut patienter. » Entre parenthèses, 6 minutes. « S'il ne se manifeste pas d'ici là, je vous invite à passer la commande en livrée. » Moussa « D'accord, j'obéis. » Donc c'est pour pointer le lien de subordination. Mmh. Deliveroo répond « Ce n'est pas un ordre. » C'est juste pour confirmer que le client n'est pas joignable, c'est tout. Moussa, si, c'est un ordre. C'est le sens grammatical du « il faut ». Ou Deliveroo dirige aussi la langue française. Deliveroo, mais il y a « s'il vous plaît » sur la phrase. La politesse ne change pas la notion d'ordre. Deliveroo, alors c'est de ma faute. Je vais changer le verbe, car on n'a pas le droit de vous donner des ordres. Je vous demande juste de patienter.
Bon, ouais. Je trouvais l'échange. Mais oui, on pouvait s'amuser un peu aussi à aller chercher comme ça. Il y avait le chat, il y avait les mails, on pouvait quand même avoir une communication avec des livreaux, on peut toujours, mais c'est très, c'est toujours très, ils sont très stratèges quoi, toujours, quoi. Ils vont toujours chercher à...
Oui, ils ont une armée de juristes derrière qui leur dit exactement ce qu'ils ont le droit de dire ou pas dire.
Et puis ce qu'il faut, enfin, toutes les réponses qu'on a d'eux, c'est des réponses type quoi, donc ça va pas... pas engager une vraie conversation avec eux. Ça, c'est toujours...
Et du coup, il y a aussi un collectif sur Paris, apparemment, qui s'est monté pour la défense des intérêts des livreurs, qui s'appelle le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris.
Oui.
Ils ont l'air très actifs.
Oui, depuis le début. Ouais.
Donc, comme article, il y a du coup la série d'articles des jours, et il y en a un autre qui est assez intéressant, qui est paru sur Street Press, qui est, lui, plus orienté sur les dangers que font courir les plateformes aux livreurs. Il est assez intéressant parce qu'on voit que il y avait dans la loi El Khomri, par exemple, une obligation d'assurance gratuite qui avait été mise en place pour que les livreurs qui sont souvent victimes et poussés à avoir des accidents...
Au départ, on n'avait rien du tout.
Voilà. Ouais. Donc, il y a une assurance obligatoire gratuite qui a été mise en place. Mm-hmm. Et c'est assez choquant parce qu'il y avait, l'exemple, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais d'un livreur qui, justement, s'est blessé en faisant une livraison. Son guidon lui est rentré... Mm-hmm. Dans l'abdomen.
Et l'assurance n'a rien couvert, quoi. Parce que ouais, c'est l'assurance basique de chez basique qui n'a rien, quoi.
Ça l'a pas couvert parce que ses jambes étaient assurées, mais pas ses tripes, quoi.
Voilà, c'est ça.
L'article de Street Press est plus sur la question des risques que sur le procès, mais il est assez intéressant aussi. Excuse-moi, du coup, je t'ai...
Non. C'est donc toute une suite de revendications depuis le départ, mais qui met toujours énormément de temps avant de se concrétiser, quoi. C'est aussi à l'État de faire de faire avancer les choses, quoi, de nous protéger. Aujourd'hui, le plus gros danger, c'est la précarité, quoi, des livreurs, quoi, parce que... t'es payé 5€ la course en moyenne, au mieux t'es payé 5€, quoi. Si tu veux, dans une journée, si tu veux vivre de cette activité, il faut que tu fasses entre 10 et 20 commandes par jour. Et donc on voit sur des créneaux du midi, créneau du soir, concentré sur 2 heures de rush, quoi, 19h-21h, t'es à fond. Et donc les gars, les livreurs font tout pour faire le maximum de commandes et se mettent en danger constamment, quoi, en fait. Dans ce modèle économique-là, qui pousse les livreurs à faire un maximum de commandes sur des petits créneaux de livraison, quoi. Donc c'est ça qu'il faut qu'ils changent.
Il y a un système de notation.
En plus, ouais.
C'est ça qui pousse aussi, je crois. Enfin, le système d'évaluation, si tu fais pas des commandes, tu baisses, t'as moins de commandes. Enfin,
donc... Oui, t'es complètement dépendant de tout ce système-là qui contrôle le livreur, quoi, du coup. Ouais.
Moi, j'ai une question pour revenir au collectif, hein, ou asso que vous avez monté là pour vous relier entre vous. Ça, c'est pas pour prendre la place de Deliveroo ou Uber Eats, parce que finalement, vous auriez pas de commandes s'il y avait pas de plateforme. C'est pour défendre. Enfin, j'imagine le but, c'est de défendre vos droits, d'en gagner des nouveaux, quoi. Enfin, d'être mieux protégé, mieux payé. Enfin, c'est.
Alors, le but, c'est d'être donc former une coopérative et être salarié. Donc déjà, c'est de vivre dignement de notre travail. Et gagner en conditions de travail. Donc oui, notre but, c'est de remplacer Uber et Deliveroo.
Cette coopérative qui mettrait en place une plateforme pour les clients pour faire « je veux me faire livrer par la coopérative plutôt que par Deliveroo ou Uber Eats ».
C'est ça, voilà.
En fait, il ne faut plus passer par Deliveroo ou Uber Eats, il faut passer par la coopérative des coursiers brestois.
Sur Brest, en tout cas.
Sur Brest,
et puis multiplier peut-être ce modèle dans les autres villes, ouais.
Moi, si je peux me permettre une intervention. Pierre, il est là aujourd'hui parce que... c'est Nico qui parle, parce que je l'avais rencontré lors d'une projection d'un film qui s'appelle Les Délivrés, un film documentaire qui a suivi des livreurs à vélo qui travaillent pour Uber, Deliveroo, tous ces trucs, qui fait des portraits de livreurs comme ça. Et on voit, à travers ce film, vraiment superbe, hein, je vous le conseille, on voit en fait toute la conscientisation de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail, souvent des gars issus de banlieues populaires, etc. C'est leur première expérience professionnelle. Ils ont envie de faire ce travail, ils ont envie de s'y consacrer. Ça permet de gagner de l'indépendance et de vivre sa vie, quoi. Mmh. Et là, ils découvrent un capitalisme ultra-libéral, celui des plateformes, qui n'est pas très nouveau, hein, de se servir de technologie pour exploiter les gens, c'est le capitalisme. Hein. Voilà. Et là, ils se heurtent à ça dans des conditions assez dures, sans protection sociale. Et en fait, ce film, il est assez extraordinaire parce que il montre quand même qu'il y a une résistance. Il y a une résistance des gens qui bossent et qui s'organisent. Le film, il démarre sur la mort d'un livreur qui est mort dans l'indifférence générale. Alors je sais plus quand, c'est 2019 je crois, que ça se passe. Ça. Un livreur qui prend des risques, voilà, comme on l'a dit, et qui meurt percuté par une voiture, et ça fait aucun bruit dans les médias, rien du tout. Et à partir de ce moment-là, y a un mouvement de colère, hein, qui se met en place. Et voilà. Et du coup, là, on a rencontré Pierre et un collègue à lui. Et en fait, ce qui est intéressant dans leur expérience, c'est que ils sortent du système des plateformes, ils arrêtent de travailler pour Deliveroo, et ils essayent quand même de se consacrer à un travail qui leur plaît. Et voilà, et du coup, une alternative à ce modèle ultra-libéral, hyper-individualiste, c'est ça qu'il faut chercher à construire, une alternative à ce modèle-là. Et ils essayent de la construire, donc chapeau. Merci. Après, ça reste un combat, hein, parce que de quoi on parle, on parle d'un grand mouvement de fond, hein, quand même, dans ce mouvement d'auto-entrepreneuriat, ce mouvement qui va rejeter la responsabilité sur les individus eux-mêmes qui doivent créer leur emploi. C'est à eux de se débrouiller dans la vie. Presque, en fait, les entreprises vont leur faire un cadeau, en fait, en leur permettant de travailler. Enfin, c'est le modèle des plateformes Uber, etc. C'est le modèle ultra-libéral.
Ouais, oui. Justement, tu vois, sur ce schéma-là, en fait, ce qui me faisait réagir tout à l'heure, c'est qu'avant, en fait,
on a oublié, tu vois, ça paraît tellement loin, mais les trucs de restauration, ils avaient leur propre flotte de livreurs, si tu veux, à eux,
ouais.
Qui finalement qui étaient les salariés du restaurant.
Exactement.
Et on payait pas en plus, si tu veux, pour une commande, tu commandais chez Domino's Pizza, enfin je te prends des trucs pas terribles, hein, mais t'avais le livreur, il venait chez toi, tu payais peut-être un forfait pour une livraison, où c'était compris dans le prix, c'était noyé, mais si tu veux, ces gens-là, ils étaient salariés du restaurant, et oui. Du jour au lendemain, quand ces plateformes sont apparues, ils se sont tous fait virer, quoi.
Ouais, ou alors ils ont rejoint aussi le Uber et Deliveroo.
Voilà, ils ont été transférés, quoi.
T'es contraint de se mettre sur les plateformes, en plus.
C'est ça. Ouais. Et tu vois, autant les plateformes sont ultra libérales et ont ultra agressives, autant les restaurateurs, ils n'ont pas joué le jeu non plus, parce qu'ils en ont profité pour virer tout le monde. Et de se dire, maintenant, ces gens-là, on les sort, ils ne sont plus dans ma masse salariale, moi je vais faire encore plus de chiffres.
Mais après, c'est un mouvement de fond depuis les débuts des années 80 avec la libéralisation de plein de services, le cassage des droits sociaux, le cassage des services publics, le cassage du statut des travailleurs, du code du travail en général, et on va favoriser des statuts comme l'auto-entrepreneuriat. Donc tout ça amène. Ce qui est assez intéressant, quoi, ce qui est assez fou hein, quand on creuse la question, c'est que par exemple, Uber fait des pertes. Dans les premières années de son activité. Des pertes on est en dizaines de millions de dollars. Hein. Des pertes énormes. Et en fait, ils s'en fichent, parce que derrière, c'est des gros actionnaires qui sont derrière. Et en fait, c'est une porte d'entrée sur des marchés, sur des secteurs où ils sont en train d'investir. Les secteurs de services à la personne. Là, on parle de livraison de repas. Donc en fait, ces plateformes-là et ces entreprises sont en train d'attaquer autre chose. Sont en train d'attaquer les services à la personne pour les personnes âgées, par exemple.
Les courses.
Aide aux personnes, quoi. Je ne sais plus comment on appelle ce corps de métier.
Aide à la personne.
Voilà.
Qui sont actuellement tenues par des associations.
Voilà. Et en fait, c'est une porte d'entrée pour casser le peu de droits acquis qu'il y avait déjà dans certains secteurs. C'est une porte d'entrée pour complètement libéraliser et déstructurer des secteurs de travail.
Porte d'entrée qui a déjà été ouverte il y a bien longtemps dans le secteur de l'informatique. On appelait ça des sociétés de services qui employaient des informaticiens envoyés en contrat chez d'autres clients. Et ça s'appelle la prestation.
C'est ça.
Mais c'est un mouvement de fond favorisé par les politiques d'État. Hein, oui.
Les vendeurs de viande, on appelait ça, ouais, dans l'industrie, je m'en rappelle.
Dans le cas de ces services de livraison, c'est pas anodin du tout que ça se développe au même moment que la réforme du code du travail, quoi. Enfin, c'était exactement à ces moments-là. Il s'agissait avant tout d'attaquer les droits qui avaient été acquis pour les salariés. Et le modèle qui était mis en avant, c'était celui-là. C'était celui de l'indépendant qui pouvait... Bon, alors avec cette espèce de rhétorique tout à fait pernicieuse du travailleur indépendant qui pouvait se faire son salaire, etc. Et tout l'enjeu de ces luttes-là, c'est justement de montrer que la subordination, elle est réelle et que les droits qui avaient été acquis par les salariés ne sont plus en place. Alors le livreur dont tu parlais à Brest, pas à Brest, à Bordeaux, c'est, je crois qu'il s'appelle Franck Page. Et justement, le récit de Street Press part de son cas à lui. Et c'est une lutte qui a été en partie initiée par ses parents, qui du coup, enfin, c'était un très jeune garçon, il venait juste d'avoir le bac. Et c'est à la suite de son décès, qu'il aura été annoncé par, là ils disent, les flics et les psychologues, qu'ils ont cherché à comprendre comment ça se faisait, qu'il avait pris autant de risques et que ces personnes-là se sont mises à essayer de faire reconnaître la prise de risque qui était suscitée par ces plateformes-là.
Ouais.
Pierre, pendant que tu es là, on va profiter, parce que comme tu fais partie donc, des gens qui veulent mettre en place cette coopérative, là dans le futur, les prochaines actions, c'est quoi? C'est déjà essayer de mettre une nouvelle plateforme en place par laquelle on peut commander, ça va être quoi?
Alors si tu veux, c'est déjà mis en place, donc tu peux déjà commander en fait des repas avec nous. Donc pour ça, nous on a du coup on a intégré des nouveaux restaurants, on a essayé de répondre déjà à la demande des restaurants qui se sont intéressés tout de suite. Et donc aujourd'hui, on en a 12. et aussi des restaurants qui sont Uber, ceux chez Uber et Deliveroo, et d'autres qui ne sont pas. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est donc en ajouter encore, pour avoir plus de... un peu plus de choix encore, il manque quelques-uns. Et puis, c'est important pour nous de développer aussi la livraison, si tu veux, la livraison qu'on peut faire le matin, l'après-midi, donc c'est les colis, c'est les commerçants. Et en fait, on est encore en train de faire tout ça. Donc en fait, pour les prochains mois, on va voir comment être en partenariat avec des transporteurs. Et pour faire ce qu'on appelle la livraison, donc dernier kilomètre.
Le dernier kilomètre. Dernier kilomètre.
Voilà, c'est ça. Donc faire le métier de coursier.
Ça rejoint un enjeu quelque part aussi écologique, hein, parce que finalement, vous faites de la livraison à vélo, les derniers kilomètres, c'est les plus gros consommateurs de carburant pour les boîtes de livraison qui font venir des poids lourds en ville.
C'est ça.
C'est un combat.
Oui, puis ils sont aussi sensibles à ça, hein, donc ils recherchent aussi. Il y a une transition à faire, hein, surtout au centre-ville, où il y a de plus en plus de contraintes de circulation, et donc le carburant qui coûte de plus en plus cher, etc., d'année en année. Donc, de toute façon, les transporteurs doivent au moins soit passer à l'électrique, mais aussi au vélo, parce qu'il y a les contraintes, il faut souffiler partout. Donc le vélo, en fait, répond vachement bien. Si au besoin des transporteurs.
Puis je pense qu'on sera d'accord qu'on préfère être livré en vélo qu'en véhicule électrique. Parce que si on devait développer ce modèle du véhicule électrique partout, hein, on est bien conscient que ça va encore permettre à Emmanuel Macron d'annoncer des productions de nouvelles centrales nucléaires.
Tout le vélo électrique.
Ouais, mais c'est pareil, le vélo électrique, c'est batterie. Donc c'est aller chercher du lithium à Tréguennec, c'est tout ça, quoi. Puis il faut l'alimenter, ta batterie. T'imagines si on devait tous, là, maintenant, se brancher sur une prise électrique le soir pour recharger nos batteries.
10 qui pédalent et un qui recharge.
Bah après, t'as toujours le vélo électrique est plus intéressant qu'un véhicule électrique parce que il va peser au maximum à lui. Le vélo, il va peser 50 kg, quoi. Là où une voiture, c'est au minimum une tonne et demie, et t'as 500 kg de batterie, quoi.
Pas la même taille de batterie.
C'est ça. Ouais. Donc en fait. Tu vois, pour faire un vélo électrique, une vingtaine de véhicules électriques, quoi. Par rapport à pour faire une voiture, il faudrait donc 20 vélos électriques comme ça, quoi. Après, ouais, c'est vrai que nous, on essaie aussi de faire. Donc, du coup, on fait beaucoup en vélo mécanique. Et on fera sans doute aussi en électrique bientôt pour les transporteurs, tu vois, parce qu'on pourra charger 300 kg de marchandises sur un vélo électrique.
Ouais, vous allez partir sur des vélos cargo spécialisés pour ça ou sur...
Voilà.
Ouais. Ouais, et puis il faut la remonter, la rue Jean-Jeu, quoi.
Ouais, avec tous ces kilos, c'est sûr, là, ça serait compliqué.
Brest n'est pas une ville simple pour le vélo.
Non. Faut aimer, ouais, c'est sûr, faut aimer. Ou alors, si tu fais du vélo pour toi, pour tes déplacements, faut prendre son temps, pas se mettre en danger. Non, franchement, bref, ça roule, mais bon, faut prendre son temps. C'est bien s'équiper, du coup, pour nous aussi. Ouais.
Bon, en tout cas, tu nous donneras les liens là, de votre plateforme, parce que, quitte à parler de livraison et tout, autant faire la pub pour que les salariés autour de la livraison soient mieux payés. Puis on n'est pas des pros, des livreurs.
Plus ça reste local, moi je trouve ça bien. Ouais. Des initiatives comme ça, ça doit se développer dans toutes les villes, je pense.
Mais... Surtout à l'époque où EOL est en train de mourir.
Oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
Mais apparemment, ils rebondissent un peu, ils vont peut-être survivre. Mais bon.
Eh ben, on va te libérer.
Ouais, ça marche.
Merci beaucoup pour être venu.
Mais oui, mais merci à vous, merci, c'est sympa.
Ouais. Et puis, si tu as des infos de ce que devient la coopérative, quoi, ou des difficultés de la mettre en place aussi, parce que j'imagine que ça ne va pas être simple non plus.
Ouais, non, c'est sûr, hein, c'est sûr, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Mais bon, on est sur un bon départ, c'est le début, c'est normal.
Vous êtes combien à peu près là sur Brest ?
On est 4.
D'accord.
Ouais.
Bon. Il y a un paquet de livreurs encore à aller chercher, quoi.
Bah ouais, on espère former une grande équipe après, ça serait super.
Il va falloir les mettre sur un vélo, hein, parce que chez Uber, ils disent qu'ils pédalent. Mais...
Ouais.
Bon, l'animateur nous dit quoi, là ?
Ah, je dis petite pause muse.
Petite pause muse.
Et parce qu'on a encore des invités, on a... On n'a pas fini la revue de presse. Oh là là, mais quel planning aujourd'hui, c'est la folie.
Comment ça n'a pas fini la revue de presse? Parce qu'après, c'est s'informer autrement, je te rappelle.
Ben non, parce qu'après, il y a encore un article sur les violences policières qu'on n'a pas abordé. Ou alors, on l'abordera une prochaine midinale.
Non, non, on y arrivera. Eh bien, pour cette pause musicale, je vous propose d'écouter Holy Tune de Elias Driss. Donc voilà, pour le premier. Et le deuxième titre, ce sera High Fever de Peter Kernel. Et on se dit à tout de suite après.
Yes.
It's time to leave the ordinary. Sadness of contemporary. Things get darker, things get dirty, and I'm smoking in poetry. It's been a decade, I'm trying to get free.
take care of me.